Chers frères et sœurs, il est des évangiles qui vous tombent dessus un peu comme la foudre ou comme le coup de froid de ces deux derniers jours. Je n'oublierai jamais la réflexion qui a échappé à une élégante dame au premier rang d'un monastère en France où je prêchais. Je venais de proclamer l'évangile de ce dimanche. Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Bousculée et choquée, cette dame laissa échapper ces mots assez forts, si bien que je les entendis, c'est quand même un peu fort. De fait. Alors essayons de comprendre ces paroles de Jésus, remises évidemment dans leur contexte. Vous vous doutez bien que Jésus n'a pas tout simplement félicité les prostituées pour leur activité, ni encouragé la pratique des percepteurs d'impôts souvent corrompus. Jésus pose une question aux grands prêtres et aux anciens du peuple, autrement dit, aux autorités avec lesquelles il a souvent maille à partir. Plutôt que de leur faire la leçon, en général, ça n'aboutit pas à des résultats bouleversants, il les interroge. Et comme souvent dans ce genre d'histoire ou de questions, ils auront eux à répondre, c'est beaucoup mieux. Et surtout, ils n'auront pas à hésiter sur la réponse tellement elle sera claire. Et ensuite, on pourra toujours revenir à leur situation. Vous vous rappelez, par exemple, dans l'Ancien Testament, l'histoire de David qui venait de tuer Uri, le mari de Bethsabée. Et le prophète de raconter au roi cette histoire d'un homme qui avait 100 brebis, d'un autre qui n'en avait qu'une toute petite. Et puis il a un invité, il va prendre la petite de son voisin pour épargner les siennes. Quel jugement mérite cet homme ? Ah mais il mérite la mort, dit le roi. Et le prophète de lui dire, cet homme c'est toi. La parabole fonctionne alors comme un boomerang. Elle part dans cette direction, mais elle revient sur la figure de celui qui l'écoute. Ici aussi, l'histoire paraît tout à fait anodine. Un maître, sa vigne, il a deux fils, il envoie le premier, puis le second, travailler dans sa vigne. Le premier ronchonne et traîne les pieds, mais finit par y aller, alors que le second, tout sourire, est magnifiquement généreux, en parole, dit oui, mais finalement n'y va pas. Question de Jésus, lequel des deux a fait la volonté du Père ? Impossible de répondre autre chose que le premier. Évidemment, il a ronchonné, traîné les pieds, mais c'est le résultat qui compte. Au fond, ce n'est pas un mauvais gars, comme nous disons parfois de quelqu'un. L'autre était généreux en parole, mais finalement, ce n'était que du vent. Et voilà que notre situation de croyant se trouve éclairée, pas seulement celle des pharisiens au temps de Jésus. Prie pour nous, pauvres pécheurs, disons-nous, dans le « Je vous salue Marie ». Eh oui, nous sommes parfois ces grincheux qui traînent un peu les pieds parce que suivre le Christ n'est pas facile, ou bien nous avons peur, ou bien nous y allons sans y aller vraiment. Mais finalement, pas toujours, mais finalement, un fond de bonne volonté et la grâce aidant, on finit par aller à la vigne. Il suffit que nous entendions l'appel à la conversion lancé par Jean-Baptiste, puis par Jésus, par l'Église, par tous ceux qui nous accompagnent d'une manière ou d'une autre. Il suffit que nous entendions ces appels insistants. Et alors la lumière de l'Évangile finira par triompher dans nos vies aussi. Les publicains et les prostituées sont venus à Jésus, attirés par sa miséricorde, parce qu'ils savaient que leur pauvre vie pourrait trouver en lui comme une résonance. C'était le malade qui se remettait au médecin. Toute différente est la situation des pharisiens, très fiers de leur haute stature religieuse, en fait, surtout du vernis. Attention, un comportement parfois vertueux dans les faits tout de même. Tout le monde n'est quand même pas prostitué ou percepteur pourri. Mais même s'ils étaient parfois vertueux, et Leur cœur était souvent rempli d'orgueil, et c'est ça que vise Jésus. Le fait de vouloir être son propre Dieu et de construire sa propre statue devant Dieu, un Narcisse en marbre de Carrare. Impossible dans cette situation de se sentir en mal de salut ou d'accueillir le salut. Et c'est bien pour ça qu'il ne venait pas à Jésus, lui mettait des bâtons dans les roues. La situation actuelle de l'Église nous force à beaucoup plus d'humilité. Je crois que le marbre de Carrare, c'est un peu fini pour le moment. Et c'est là que nous rencontrons la pertinence du fameux hymne de saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, le Christ. Lui qui avait un rang égal à Dieu, qui de plus était sans péché, innocent, s'est vidé de lui-même et s'est abaissé jusqu'à non seulement devenir semblable à nous pour nous ramener à Dieu, mais de plus il s'est fait obéissant à son Père jusqu'à la mort. Et pas n'importe quelle mort, jusqu'à la mort sur une croix. Il a accepté d'être incompris, trahi, rejeté, torturé, crucifié, et cela par pur amour pour qu'enfin nous acceptions d'être sauvés, aimés, ramenés au Père pour notre bonheur et pour le sien. C'est cette humilité absolue de Jésus, cet abaissement qui permet par exemple au larron sur la croix de confier sa vie à Jésus. Je veux parler du bon larron. En fait, il était aussi larron que l'autre, mais lui, au lieu d'insulter Jésus, s'est confié à lui. Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton royaume. Saint Paul, soucieux de l'unité de sa communauté, soucieux tout simplement de l'unité entre nous aujourd'hui encore, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans la société, l'apôtre nous supplie d'avoir entre nous les sentiments du Christ Jésus. Et il retient un point, outre la compassion, mais l'humilité. Seule cette simplicité radicale, cet abaissement, pas pour s'écraser, mais pour aimer, seule cette attitude permet à l'autre d'accepter une parole, un geste qui puisse lui faire découvrir sa faute, le conduire à la lumière, sans qu'il se sente jugé, jaugé, souvent méprisé. C'est cette humilité radicale qui fait que Jésus a reçu le nom qui surpasse tous les noms. Jésus est Seigneur, exalté dans la lumière de la résurrection, entraînant avec lui tous ceux que son humilité a transfigurés, attirés, sauvés. Nous comprenons à la lumière de la parole de Dieu de ce dimanche que ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, d'ailleurs, comment le serions-nous, même si nous sommes appelés à la sainteté. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, mais de se reconnaître dans notre vérité. Parfois dans la lumière, tout de même. Alors remercions Dieu, et sachons que c'est une très grande chance, et sûrement une grâce. Parfois et souvent dans le péché, nous écartant de cette charité qui est la marque du disciple de Jésus, et alors humblement demandons son aide au Sauveur. Nous serons alors le ronchonneur qui traîne les pieds, mais qui finit par prendre son sarcloir et son sécateur, et par reprendre son travail dans la vigne du Seigneur. En conclusion, entendons ces paroles du prophète Ézéchiel, elles sont pleines d'espérance pour nous ce dimanche matin. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux, il s'est détourné de ses crimes, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Amen.